Alors après les 40 jours sur la montagne avec Jésus sur la montagne qu'on a passé là entre février et mars, et puis le culte de Pâques dimanche dernier, nous étions vraiment sur les hauteurs, la résurrection, le serment sur la montagne, et je vous propose de commencer une nouvelle série où on descend un petit peu et on arrive dans le quotidien, le quotidien de la vie chrétienne ou de la vie d'église. Et je vous propose une série sur la lettre de Paul, ou l'épître de Paul aux Corinthiens, la première en tout cas, écrite par Paul, donc qui avait, je cite Olivier Caillot, qui était légèrement porté vers l'orgueil. C'est intéressant. L'église de Corinthe, on le sait, enfin pour ceux qui ont déjà lu le Nouveau Testament, c'est une église légèrement compliquée, l'église de Corinthe, l'église avec laquelle Paul aura le plus de problèmes. Et on pourrait se demander pourquoi j'ai choisi cette église. Est-ce que c'est pour y noter des ressemblances avec notre église cannoise? Non. Il faut être clair dès le début, ce n'est pas pour tirer un parallèle avec notre Église que j'ai choisi cette lettre, ce livre du Nouveau Testament, mais tout simplement parce qu'on l'a abordé à Aventure Formation, vous savez, cette formation en 3 ans, et qu'on s'aperçoit que cette première aux Corinthiens, elle est énormément riche, et qu'elle traite des sujets à la fois intéressants, actuels et même pointus. Je vous cite quelques-uns de ces thèmes. Les rivalités, la centralité de la croix, les forts et les faibles, les viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce serait intéressant. La Sainte Cène, le célibat, la question de la sexualité, l'adaptation, l'affaire du voile, 1 Corinthiens 11. Je vois pas beaucoup de voiles, là. Les dons spirituels, les charismatas, l'amour, la résurrection. C'est pas mal, quand même, hein, dans une épître. Le menu, moi, je le trouve appétissant, au risque même de l'indigestion. Bon, vous me le direz à la fin. Bon, je vous le répète, donc, toute ressemblance avec des situations ou des personnes existantes à Cannes serait tout à fait fortuite. Ou alors, inspiré par le Saint-Esprit, justement. Et justement, en parlant du Saint-Esprit, je vous rappelle 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Et on veut être instruit. Et on veut se lancer dans ce commentaire de l'épître de Paul aux Corinthiens pour que le Seigneur puisse nous faire grandir dans la foi chrétienne et dans notre vie d'église, dans nos relations avec le monde et dans nos relations les uns avec les autres. Et le verbe grandir fait partie des 4 mots que vous avez vus en première page là du diaporama, que notre adage en tant qu'église que nous avons élaboré il y a plus ou moins 2 ans, accueillir, témoigner, l'Église, on veut être ensemble pour accueillir, témoigner, grandir, servir. Grandir. On est là pour grandir ensemble. On lit ensemble 1 Corinthiens 1 à 9. Paul, de Tarse, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, salut l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à être saints, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur comme le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra lui-même. D'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin. Ah, j'ai oublié un point. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Alors, si je prends mes précautions, enfin, si j'ai pris mes précautions tout à l'heure, c'est parce que l'Église... donc de Corinthe, n'a pas très très bonne réputation. Elle a été implantée par Paul, l'apôtre Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire. Il y est resté 18 mois, un an et demi, et puis il quitte Corinthe dans l'année 51, et puis il voyage encore un peu, et il se fixe à Éphèse, où il va créer une sorte d'institut biblique à Éphèse. Et de là, quand il est à Éphèse, il reste 2 ans à Éphèse, et là, il va recevoir des nouvelles de Corinthe. 4 ou 5 ans se sont écoulés depuis qu'il a commencé l'église de Corinthe. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a des règlements de compte à Hoquet Corinthe. Il y a des divisions, il y a des problèmes moraux, il y a des contestations, il y a du désordre, et il y a aussi des courants de pensée tout à fait contraires à l'Évangile. Il y a l'influence de la philosophie stoïcienne, et il y a les sophistes, et puis il y a aussi l'influence de tous les cultes païens, du paganisme. Paul, donc, écrit à l'Église qui est établie à Corinthe. Et c'est important, et c'est le premier verset, Paul à Corinthe, qui écrit à Corinthe, il s'adresse à une église qui est dans une ville. Et le contexte est important. Il écrit à des chrétiens de chair et de sang qui sont membres de cette société corinthienne, et donc une ville qui a une histoire, qui a une culture, qui a une influence aussi sur ces personnes. Et donc, quelques infos sur cette ville de Corinthe pourraient nous être utiles. Je fais un peu l'office du tourisme, là. Corinthe, sa ville, ses commerces, elle se trouve en Grèce, donc, comme vous le voyez sur la carte, en Europe. Et donc, il y a beaucoup d'églises fondées par Paul qui se trouvent en Asie, donc de l'autre côté, là, du côté de la Turquie. Mais depuis qu'il a eu un rêve avec un Macédonien qui lui apparaît en rêve, Paul est passé dans l'Euroland, et il a fondé des églises comme Bérée, comme Thessalonique, comme Philippe, en Macédoine, ou Corinthe. Et Corinthe est une grande ville de l'Empire romain. Elle est une grande ville commerciale, capitale de la région de la province de la Grèce et du Péloponnèse, un carrefour commercial avec une population cosmopolite qui cherche à s'enrichir. Pas de noblesse, parce que Corinthe est une ville récente, mais une aristocratie de l'argent. Les différences sociales à Corinthe sont très nettes, très marquées. À côté de cela, Corinthe, son église du 1er siècle, il y a aussi toutes sortes de religions présentes à Corinthe. Comme dans tout l'Empire, il y a des temples pour tous les dieux. Il y a celui d'Apollon, par exemple. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ces cultes peuvent être ajoutés les uns sur les autres comme un jeu de construction sans que cela ne pose aucun problème. On appelle ça, justement, le syncrétisme. Ça pose aucun problème et même c'est encouragé par l'Empire romain. On peut rendre un culte à Jupiter ou à Poséidon, à Apollon ou à Isis, divinité égyptienne, ou encore à Astarté et Cybèle, des divinités orientales. Aucun problème. Syncrétisme. Et dans ce syncrétisme ambiant, il y a une minorité qui tente de survivre et qui en appelle à un seul kurios, à un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et cet exclusivisme chrétien, qui rejette le syncrétisme, Christ seul, pose des problèmes quand même aux chrétiens dans la société corinthienne, pas seulement pour leur foi, mais aussi dans la vie de tous les jours, puisque toutes les associations dans la société corinthienne étaient sous la sous le patronage d'un dieu ou d'une déesse païenne. Et les banquets, on dirait aujourd'hui les soirées, se déroulaient dans les temples. Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien de Corinthe ? Corinthe, son église au 1er siècle, son syncrétisme, pas facile pour les chrétiens de Corinthe de vivre dans ce contexte, mais qui est pas sans analogie avec le nôtre. En même temps, l'église de Corinthe reste une église du 1er siècle, qui vit avec des problèmes du 1er siècle, et la parole de Dieu s'incarne dans des situations particulières. Et donc, 20 siècles plus tard, il faudra donc chercher à trouver les principes plutôt que faire du copier-coller. On va chercher les principes qui sont derrière, comme sur cette question des viandes sacrifiées aux idoles ou sur la question du voile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chercher les principes applicables pour nous aujourd'hui. Mais nous n'en sommes qu'au début et Paul commence par le commencement, c'est-à-dire les salutations. Et il s'agit de salutations normales avec des remerciements, je suis dans la reconnaissance, etc. Mais ce qui m'a frappé dans ces situations, dans ces salutations, pardon, c'est le mot « appel » que j'ai écrit en jaune dans le texte de Corinthiens 1 à 9, comme si Paul pouvait faire passer un message que Dieu nous appelle. Et il continue de nous appeler, et il renouvelle son appel. Notre Dieu est un Dieu qui appelle. Et verset 1, il appelle Paul à être apôtre. Paul appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ. Alors il faut savoir qu'il y avait deux sortes d'apôtres. Apôtre qui veut dire envoyé, qui vient de apostello. Je me demande si le mot poste vient pas du grec apostello. Envoyé, bref. Donc il y avait les apôtres, et ça on le sait tous, les 12 apôtres, hein, c'est-à-dire les 12 disciples. Judas a été remplacé par Matthias dans le livre des Actes. Les 12 apôtres, ceux qui ont vu et qui ont été envoyés en mission par Jésus. Ceux qui ont vu Jésus et qui ont été envoyés par Jésus. Ça, c'est les 12 apôtres. Mais dans la Bible, on trouve d'autres apôtres, des gens qui sont envoyés en mission, des apôtres. Et dans le livre des Actes, on a Barnabas, par exemple, le fils d'encouragement, qui est envoyé régulièrement en mission spéciale d'encouragement. Un super ministère. Et dans le livre aux Romains, nous avons Junia, apôtre, une femme, parmi les apôtres. Alors ceux qui sont contre le ministère féminin ont dit depuis des années que c'est pas Junia, c'est Junius. Il a été démontré par Valérie Pujol que c'est une erreur. Junia, Junius au masculin n'existe pas. Junia, c'est une femme. Apôtre. Et donc, dans l'église de Corinthe, la question justement de l'apôtre, de l'apostolicité de Paul, pose question. Est-ce qu'il est un apôtre comme les autres ? Est-ce qu'il a vu le Seigneur ? Est-ce qu'il a été envoyé par le Seigneur ? Et certains Corinthiens mettaient ouvertement en doute son apostolicité et dans le même titre contestaient son autorité. C'est pour ça qu'il a eu du fil à retordre avec les Corinthiens. Les Corinthiens se disaient « Qui est ce type qui se permet de nous dire ce qu'on doit faire ?» Et à tous ces contestataires, à tous ces discutailleurs, Paul rappelle que s'il est apôtre, ce n'est pas par une institution humaine, ni même par un vote à main levée, ou par un titre donné par les personnes autorisées, mais par son appel. Il a été appelé à être apôtre. Et si Paul peut être peut paraître faible à certains égards et sur certaines questions, quand il parle de son appel, il parle avec une conviction incroyable que rien ne peut ébranler. C'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé alors qu'il était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens. Vous vous souvenez qu'il tombe par terre, qu'il devient aveugle. Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il est envoyé en mission comme un apôtre vers les non-juifs. Et ce qui fait de lui cet appel, c'est ce qui fait de lui un apôtre, et toute son autorité vient de là, de cet appel. Et voilà ce qu'il dit un peu plus tard dans 1 Corinthiens 15, « Oui, je suis le moindre des apôtres. » Je suis pas peut-être porté par l'orgueil, mais je suis le moindre des apôtres, avec beaucoup d'humilité. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et on peut tous dire ça, n'est-ce pas ? Ce que nous sommes, jusqu'à présent, ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Et Paul le dit pour lui, je suis apôtre par appel. Je suis ce que je suis par appel. Alors, quelle application pour nous ? Peut-être une application sur la question de l'autorité, mais pas par rapport à un homme qui s'auto-proclamerait apôtre ou prophète ou méga-pasteur ou je sais pas quoi, mais l'autorité de l'enseignement des apôtres dans le Nouveau Testament. Dans Acte 2, il est dit qu'ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Pierre, Paul, Jacques, etc. Le Nouveau Testament. Et si nous pouvions être des disciples sous l'autorité de la parole, de l'enseignement des apôtres, de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies, en tant que disciples de Jésus-Christ, qui descendent de la montagne avec lui et qui se mettent à le suivre ? Et puis la deuxième notion d'appel, elle est liée à la sainteté. Au verset 2, il est dit « À ceux qui ont été purifiés de leurs péchés, c'est-à-dire sanctifiés dans le texte original avec le mot « saint », dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. » Alors on passe ici du singulier à l'église de Corinthe, au pluriel de ceux qui composent cette église de Corinthe, les nouveaux membres comme les anciens, les sympathisants chrétiens, ce sont des sanctifiés. Il nous a sanctifiés, sanctifiés en Jésus-Christ, et qui sont appelés à être saints, qui ont la vocation à être saints. Et avec ce verset, on rentre dans cette question de la sainteté qui, à cause de son une utilisation abusive a faussé un petit peu notre compréhension de ce mot. Vous savez, saint ne joue pas au petit saint, ne joue pas à la sainte ni touche. Et dans la Bible, la sainteté, c'est d'abord c'est d'abord la notion de mise à part. On mettait les instruments du temple à part à l'époque du Premier Testament. On les consacrait au temple et au culte. Et Paul prend cette notion pour l'appliquer aux chrétiens qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Qui ont été, c'est le passé composé en français. Au passif. Qui ont été même. Le passif parce que c'est Jésus qui sanctifie le croyant, qui le consacre. Qui le met à part. Par sa mort et sa résurrection, il nous consacre, il nous sanctifie. Il ne s'agit pas d'une auto-sanctification où le chrétien chercherait à faire des efforts pour devenir meilleur. Non, nous avons été déjà justifiés, réconciliés et sanctifiés en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, et on en parle lors des préparations au baptême, la sanctification initiale. On a été sanctifiés. C'est fait en Christ, par la foi. Et dans le texte, ils font référence à leur conversion, à la conversion des Corinthiens. Vous êtes passés dans le royaume de Dieu, vous avez été sanctifiés. Mais ces Corinthiens qui ont été sanctifiés et qui ont donné leur vie à Christ, certainement lorsque Paul était parmi eux, il y a 4 ou 5 ans, sont appelés à être saints, à devenir ce qu'ils sont déjà. C'est une expression que j'aime bien. Le Seigneur nous appelle à devenir ce que nous sommes déjà. Nous avons été sanctifiés, c'est le parfait en grec, c'est une fois pour, dans le passé, avec des résultats dans le présent. Et on est appelé à être saint. Et ce qu'on pourrait appeler la sanctification progressive, la sanctification initiale et la sanctification progressive. On n'est pas parfait, mais on est appelé à marcher dans la route, sur la route, dans le chemin de la sanctification. Et Paul va répéter cela tout au long de son épître aux Corinthiens, avec ces Corinthiens, même chrétiens, qui ont des mœurs approximative. Maintenant que vous êtes unis à Jésus-Christ, maintenant qu'ils appartiennent à Dieu, vous ne pouvez pas faire comme s'ils appartenaient, si vous apparteniez à la société païenne de Corinthe. Non. Vous avez été sanctifiés, vous êtes appelés à vivre en cohérence avec cette sanctification initiale dans le concret de leur vie de tous les jours, vous êtes appelés à être saints. Il y a une sorte de mise en conformité de leur vie par rapport à l'appel reçu en Jésus-Christ. Et j'aime bien cette phrase d'un certain André Dumas, « Celui qui se remet à Jésus-Christ doit se démettre de ses anciennes habitudes de vie et de pensée pour se soumettre à son Seigneur. » Et vous notez les trois verbes en « être »,« remettre », démettre, soumettre. Dès les salutations, Paul touche à un grand problème chez les Corinthiens, le problème de la moralité ou de l'éthique chrétienne. Et nous avons dit dans l'introduction que l'Église était soumise à de fortes influences, en particulier cette pensée dualiste très, très grecque, de la philosophie grecque, qui méprisait la matière, le corps, pour magnifier l'esprit. C'est l'esprit qui est plus important. Qui est même, il disait, le corps est la tombe de l'âme. Ça, c'est la philosophie grecque. Et les chrétiens de Corinthe sont influencés par cette pensée dominante à l'époque. Et ils se disaient, donc les chrétiens, tant qu'on est des êtres spirituels, et c'est dans le texte de 1 Corinthiens, de l'épître, tant qu'on est des pneumatikoi, des spirituels, pneuma, esprit, nous on est des êtres spirituels, ben le corps, on en fait ce qu'on veut. On peut... Bon, vous savez ce qu'on peut faire avec le corps. Et on peut faire ce qu'on veut dans nos relations avec les autres, de toute façon, tout cela n'est que matière et ça ne compte pas, le monde sensible n'est rien, seul l'esprit compte. Et Paul répond, non, vous avez été sanctifiés tout entier, corps, âme, esprit, et tout ce que vous voulez, en Jésus-Christ, et vous êtes appelés à être saints tout entier dans la vie de tous les jours. Alors, sans vouloir tirer trop vite des applications pour nous, mais je pense qu'il faut que nous nous souvenions rapidement, régulièrement de cet appel à la sainteté, et qu'il s'agit réellement d'un appel qui vient de Jésus-Christ. Que nous adresse Jésus-Christ lui-même. Pas pour devenir des petits saints ou des saintes nitouches, mais pour être des hommes et des femmes conséquents avec eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Sous la grâce, en étant conscient de ses faiblesses, comme Paul l'était. Et en recevant aussi cet appel, cet appel à marcher dans la grâce quand Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Elle est pleinement suffisante. Mais en conformité avec ce qu'il a fait pour moi, je vais marcher dans cette voie de sainteté. Et quelqu'un disait, la sainteté, c'est redéfinir tous ses attachements
en fonction de son attachement premier à Jésus-Christ. Redéfinir tous ses attachements antérieurs par rapport à son attachement premier en Jésus-Christ. C'est ça la sanctification progressive à laquelle nous sommes appelés. Et puis un dernier appel, appelé à la communion, car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Et on voit un petit chrétien ictus dans un bocal qui n'est pas vraiment en communion. Alors quand Paul parle de communion, c'est certainement d'abord la communion avec Christ. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il nous parle des richesses que nous avons reçues en Christ. Vous avez été enrichis. Alors, en Christ, vous avez été enrichis dans la communion avec lui. Et en Christ, il y a eu comme un transfert de richesses. Toutes les richesses du Christ nous ont été données, transférées. Transfert. Et il y a une belle phrase du pasteur Robert Somerville, mon professeur d'éthique à Vaux-sur-Seine, un pasteur baptiste que les baptistes connaissent. Ils sont là, les Kirchhoff, ils sont où les Kirchhoff? Ben, tu te souviens de Robert Somerville et qui disait, écoutez ça, par son incarnation, ses souffrances, sa mort sur la croix, il a voulu avoir tout en commun avec nous, par son incarnation, pour que nous ayons tout en commun avec lui. Par son incarnation, il a voulu avoir tout en commun avec nous, pour que nous ayons tout en commun avec lui. Sa résurrection, la vie éternelle, l'héritage des enfants du Père. Première communion avec Christ. Mais le deuxième sens de communion, la communion avec les autres, n'est jamais très loin de la première communion avec Christ. En fait, elle la suit directement. C'est parce que nous sommes en communion avec le Christ que nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes tous les enfants du même Père. Et donc, quelque part, dans la même maison, à partager la même nourriture, les mêmes horaires, participer à la même vie surtout. Une communion les uns avec les autres à laquelle nous sommes appelés. Et pour les Corinthiens, cet appel à la communion ne tombe pas à plat. Au contraire, on sait que à Corinthe, le fait de distinguer les différences sociales était un sport national et que cet esprit gagnait l'Église. Et on le verra au chapitre 11 pour la Sainte Cène, où Paul pose la question, mais où est la communion dans le repas de communion ? Et donc à ses frères de Corinthe, tellement sensibles à leur statut social, à leur réussite sociale, Paul lance dès le départ un appel à la communion. La communion au Christ ne vous dispense pas de la communion avec les autres. Au contraire, elle vous appelle à la vivre pleinement, concrètement, pratiquement. Et il sera question de l'unité de l'Église, de la solidarité, du soutien les uns pour les autres. Et même, il sera question dans 1 Corinthiens d'amour. Ah, oh oui, l'amour, la communion les uns pour les autres. Alors, je m'arrête ici, mais j'aimerais, avec à la fin de ces trois appels, de lancer un appel. Je lance un appel. Un appel à la compréhension. C'est-à-dire, et j'adore rappeler l'étymologie, prendre avec soi, cum prendere, je suppose, en latin, mon latin est un peu rouillé, mais prendre avec soi, comprendre. Alors, quel appel pour toi ce matin ? Un appel à la mission, comme Barnabas, une mission d'encouragement, ou comme Paul, une mission d'implantation d'église, ou comme Junia, une mission non spécifiée. Le Seigneur nous appelle à le suivre et à vivre notre mission de témoin dans ce monde, à être sel de la terre, lumière du monde. Mais se rappeler que nous avons été appelés à cela. Appel à la sanctification, à couper peut-être avec quelques anciennes manières de vivre, de redéfinir notre attachement, nos attachements antérieurs en fonction de notre attachement premier à Christ, s'engager clairement dans cette voie de sanctification, malgré le mot un peu vieillot, hein, mais on le garde. Et puis, est-ce que le Seigneur t'appelle à la communion, à se rapprocher de Christ, à se rapprocher du cep, à se rapprocher de celui qui donne la vie, à s'ouvrir aux richesses de la grâce, de son pardon, de sa remobilisation, et en même temps vivre aussi cette communion fraternelle à laquelle nous sommes appelés dans l'amour. Peut-être sommes-nous un peu isolés, peut-être nous sommes isolés nous-mêmes, mis en retrait, mis à l'écart. Peut-être sommes-nous frustrés, déçus par tout le monde. Peut-être que on est retournés dans le bocal, hein, dans notre petit bocal, peut-être plus sécurisé. Le Seigneur nous appelle à la communion, à sortir du bocal. Quel appel pour chacun d'entre nous ce matin, peut-être le premier, peut-être le dernier, peut-être celui du milieu, peut-être un peu des trois. Prions. Oui Seigneur, tu nous appelles à la mission, à la sanctification, à la communion. Et ces appels nous interrogent, savoir si nous sommes prêts à entendre ton appel et à y répondre. Mais ce matin, on veut se souvenir que derrière tous ces appels, tu te tiens là. C'est toi qui appelles. Toi qui as tout donné pour nous, toi qui es mort à la croix, pour nous par amour et pour notre pardon, et puis qui est ressuscité pour nous montrer, pour nous amener à une vie nouvelle. Et Seigneur, c'est toi le Dieu de la grâce qui nous appelle, non pas pour avoir notre ticket pour le ciel, non pas pour gagner notre place au ciel, mais pour t'être reconnaissant et vivre une vie qui soit pour ta gloire, et qui soit une action de grâce pour toi. Et on sait que, par ricochet, une vie comme cela, en conformité, qui répond à l'appel du sermon sur la montagne aussi, nous donne quelque part le bonheur selon toi, c'est-à-dire le bonheur d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour ce plan que tu as pour chacun d'entre nous, ce projet, non pas de malheur, mais vraiment de paix, qui nous donne un avenir fait d'espérance. Merci parce que tu as un appel global pour tous tes enfants, puis un appel particulier pour chacun d'entre nous. Donne-nous de l'entendre et d'y répondre. Par ta grâce et pour ta gloire. Amen.